Eh bien, ce matin, nous avons un autre sujet. On passe à autre chose. Donc, on passe à la prière. Donc, j'ai plusieurs versets que, si vous voulez bien, on va lire. Et je vous demanderai même si vous voulez aussi les apprendre par cœur. C'est une très très bonne chose. Le premier n'est pas difficile. Et vous le connaissez sans doute par cœur. C'est juste une petite phrase qui a l'air de rien, mais qui est très importante. Alors c'est 1 Thessaloniciens 5, 17. Vous connaissiez peut-être pas l'adresse, mais vous connaissiez l'habitant de cette adresse. C'est prier sans cesse. Alors 1 Thessaloniciens 5, 17. Et puis le deuxième, c'est Matthieu 26, 41. Alors, quelqu'un là le lit? Matthieu 26, 41. Voilà, c'est un grand commandement. Ensuite, Jean 16, 24. Jean 16, verset 24. Voilà. Alors, ça aussi, ce sont des versets très importants. Et il y en a d'autres, hein, sur le sujet de la prière, beaucoup d'autres. Mais ces deux, trois-là sont des versets très importants. Donc, prier. La prière est un grand sujet. C'est malheureusement, nous avons l'habitude de parler de la prière, de disserter sur la prière, mais nous sommes peut-être même des experts sur la question de la prière, mais peu de gens prient. Beaucoup de gens parlent de la prière, mais peu de gens prient vraiment. Pour quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, quand on dit qu'il faut prier, eh bien, il pense qu'il faut réciter le Notre Père et quelques autres prières écrites à l'avance et que on va faire avec un esprit bien tranquille. J'ai même feuilleté un livre, disons, liturgique. Alors, il y a la prière d'avant le culte. Il y a la prière de la fin du culte. Il y a la prière avant la Sainte Cène. Et il y a la prière après la Sainte Cène. Il y a la prière pour les malades. Il y a la prière pour les enterrements. Il y a la prière. Et tout ça, c'est bien, tout est dit, hein. Alors, il suffit de les réciter, c'est tout. C'est pas plus difficile que ça. Vous pouvez les réciter, même ne pas penser à ce que vous dites. Vous avez récité la prière, c'est bon. Vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, la prière, dans le sens biblique, c'est pas du tout quelque chose comme cela. Et même, je veux peut-être vous choquer, mais dans nos réunions de prière, il y a peu de gens qui prient. Il y a des gens qui récitent de belles paroles, mais qui n'ont pas vraiment prié. Pour moi, et je pense que ma conception de la prière est biblique. La prière, c'est une lutte. C'est un combat. Et dans le combat, il y a la perspective de la victoire. Beaucoup de chrétiens ont récité des lieux communs sur la prière. Ils ont dit beaucoup de choses intéressantes sur la prière. Mais ils n'ont pas vraiment prié. Parce que quand on prie, il y a quelque chose qui pèse dans notre cœur. Notre cœur brûle. Il y a le désir de vraiment obtenir la prière est un combat. C'est une lutte. Si la prière n'est pas vraiment un combat, c'est une récitation de lieu commun. Et malheureusement, j'ai été dans des réunions de prière où la prière languit. Elle est stagnante, voilà. Et puis il y a un long silence. Et puis quelqu'un se dit, je rompre quand même ce silence, c'est pas l'heure de finir la prière quand même. Hein. Alors c'est le pasteur parfois ou quelqu'un qui se sent un petit peu plus spirituel que les autres, qui relance la prière. Mais si vous pensez que ça c'est prier, vous êtes complètement trompé. La prière c'est tout à fait autre chose. J'ai appris par l'adversité. C'est-à-dire que j'étais d'une nature très, très, très timide. C'est-à-dire que j'aurais même pas demandé l'heure dans la rue. Et le pasteur, présent dans cette salle, avait l'habitude de dire: Jeanlin, est-ce que tu veux pas prier? Alors moi, j'étais terrorisé sur ma chaise parce que je savais qu'il allait me le demander. Et je souhaitais tout au monde, sauf de prier. Alors, mais quand il me l'avait demandé, il fallait bien que je prie. Alors, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, dans ma faiblesse et dans ma terreur, je criais à Dieu qui me donne la prière. Et j'ai appris là une grande leçon. C'est prier pour prier. Et apprenez ce petit proverbe. C'est un de mes proverbes. J'en ai inventé beaucoup, hein. Mais ça, c'est un de mes proverbes. Priez pour prier. C'est-à-dire que quand vous allez commencer un moment de prière, alors priez pour que le Seigneur vous utilise dans la prière, qu'il vous inspire les sujets de prière, qu'il mette sur votre cœur des fardeaux de prière, que vous puissiez prier par l'Esprit, parce que la parole de Dieu nous dit de prier par l'Esprit. Donc, on demande à Dieu de pouvoir prier comme il le faut. Parce que nous ne sommes que des petits humains de rien du tout. Qu'est-ce que nous avons à dire à Dieu, nous, en tant qu'êtres humains? Nos paroles, est-ce qu'elles peuvent arriver jusqu'au trône de Dieu? Nous avons besoin que Dieu nous donne la prière. Et même, il est dit, hein, nous ne savons pas ce que nous devons demander dans la prière. Et l'Esprit de Dieu nous inspire dans la prière. Et par des soupirs inexprimables. Et Dieu qui connaît la pensée de l'Esprit, eh bien, il répond aux prières de l'Esprit. Et parfois, même dans nos prières, nous sommes muets parce que nous n'avons même pas la capacité de dire. Et là, Dieu interprète ce qui est dans nos cœurs, ce qui pèse dans notre cœur. Parce qu'il n'y a même pas, parfois, il n'y a même pas des mots pour exprimer ce que nous avons à dire. Le besoin est inexprimable. Et le Saint-Esprit utilise. Donc c'est pour vous dire que la prière, c'est beaucoup plus que ce que nous avons l'habitude dans nos réunions de prière. C'est beaucoup plus. Et même, je pourrais dire, c'est infiniment plus. Parce que la prière est à la dimension de notre Dieu et de la puissance de notre Dieu. Il y a des personnes, quand elles ont prié, elles ont changé l'histoire du monde. Je ne suis pas d'accord avec Luther sur bien des points, hein. Donc je ne suis pas un luthérien et je prends ce qui est bon et je laisse ce qui est mauvais. Mais un jour, Luther était au chevet de son ami Mélenchon, Philippe Mélenchon. Et Mélenchon était mourant. Et c'était le grand théologien allemand de la Réforme. Luther n'était pas un théologien, du tout. Donc il prêchait, il avait la capacité de prêcher, il avait la puissance de prêcher, il avait l'énergie d'être un réformateur, mais il n'était pas un théologien. Alors le théologien, c'était Philippe Mélenchon, qui partait un peu trop tôt. Et alors déjà, il avait le visage blême et la transpiration de la mort. Il était mourant. Et alors, Luther lui a dit: Philippe, il ne faut pas mourir. Alors, l'autre, dans ses dernières paroles mourantes, il lui a dit: Laisse-moi mourir, Martin. Et alors, il lui a dit: Non, Philippe, il ne faut pas mourir. L'Allemagne a besoin encore de toi. Alors, il a dit: Laisse-moi mourir tranquille, je m'en vais. Là où meilleur que là où tu veux que je reste. Il lui a dit: Il ne faut pas mourir, Philippe. Et alors il s'est mis à genoux et il a prié comme Luther savait prier. Parce que quand Luther priait, c'était aussi bien un bon réformateur qu'un homme de prière. Et il a prié intensément et Philippe lui a dit, avec une voix un peu plus forte, il lui a dit: Mais laisse-moi mourir, ne veux plus vivre, je veux mourir. Il lui a dit: Il ne faut pas mourir, Philippe. Il est allé prier encore jusqu'au moment où Philippe allait mieux. Et il allait de mieux en mieux au fur et à mesure que Luther priait. Et finalement, il n'est pas mort. Je peux vous dire qu'il y a des prières qui ont arraché des hommes et des femmes à la mort. Parce que des hommes ont prié, vraiment prié, et des hommes et des femmes, hein. Et même je pourrais dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui ont prié et de vraiment prié. Parce qu'il y a eu une époque où les femmes étaient vraiment engagées dans la prière et elles sentaient que c'était leur ministère à elles. Si elles n'avaient pas la prédication, elles avaient la prière. Et elles ont usé de ce privilège avec toute l'énergie qu'elles pouvaient avoir. Autant les hommes étaient des prédicateurs et se livraient vraiment à la prédication, autant les femmes se livraient à la prière et luttaient dans la prière et combattaient jusqu'à ce qu'elles obtenaient la victoire. Malheureusement, nous sommes dans un monde où on veut absolument l'égalité avec les hommes et les femmes. C'est-à-dire que ce n'est plus l'égalité, c'est l'uniformité. Il y a une grande différence entre égalité et uniformité. C'est une différence comme le jour et la nuit. C'est pas difficile. Ça n'a rien à voir. Entre les hommes et les femmes, bibliquement, il y a égalité. La parole de Dieu nous dit clairement, il n'y a ni homme ni femme. Par contre, il y a des rôles différents. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait uniformité dans l'Église. Les femmes ont un ministère, c'est le ministère de la prière. Ça ne veut pas dire que les hommes ne l'ont pas. Mais néanmoins, comme elles n'ont pas la prédication, eh bien, elles se consacrent à la prière. Quand les femmes vraiment utilisent l'arme de la prière, alors elles sont efficaces dans l'Église. Et la prédication va bien. Et l'Église grandit. Et l'évangile est proclamé. Et les âmes se convertissent. Parce qu'il y a une prière qui lutte, qui combat et qui obtient des victoires. Et c'est de cette prière-là que je parle. L'autre prière ne m'intéresse pas. C'est l'autre prière, eh bien, le diable, quand il entend ces prières-là, il se frotte les mains. Tout va bien. Les âmes vont en enfer et elles continueront à y aller. Tandis qu'il y a une prière militante, une prière conquérante, une prière qui lutte, une prière qui pleure, une prière qui obtient des victoires. Et c'est cette prière-là qui est la prière chrétienne. Après, la prière des monastères, la prière des réunions de prière obligatoires et nécessaires et bien calibrées. Et voilà, on commence à telle heure, on termine à telle heure. Eh bien, ces réunions de prière, bon, bien, je ne souhaite pas qu'elles disparaissent, non, vraiment. Mais je souhaite qu'elles changent et qu'elles deviennent des réunions de prière, vraiment des réunions de prière. C'est quand un chrétien prie, eh bien, il doit savoir pourquoi il prie. Et c'est bien d'avoir déjà des sujets de prière. Il y a des. La Bible est remplie de sujets de prière. Quand vous lisez votre Bible, eh bien, notez les sujets de prière. C'est une étude de la Bible. Vous pouvez commencer une lecture de la Bible en notant les sujets de prière. Vous allez changer votre lecture de prière et c'est une nouvelle manière de faire. Et vous allez chercher les sujets de prière. Par exemple, il est dit de prier pour la paix de Jérusalem. C'est vrai. Il a dit, et la parole de Dieu nous enseigne qu'il faut intercéder pour le peuple. La parole de Dieu nous enseigne qu'il faut intercéder pour Israël. La parole de Dieu nous enseigne qu'il faut intercéder pour les frères et sœurs. Prier les uns pour les autres. La prière pour les âmes perdues. C'est la prière de pardon. C'est le Seigneur Jésus nous a donné l'exemple. Il était crucifié. Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est une prière, c'est un sujet de prière. Vous lisez votre Bible et vous allez trouver des sujets de prière. Et Dieu nous demande d'être fidèles dans ces sujets de prière. Et beaucoup de personnes disent, oh, mais il faudrait que j'aie des sujets de prière. Il y a la révélation. La parole de Dieu révèle, et c'est la révélation. Et elle nous parle, elle nous enseigne ce que nous devons faire. Et non seulement elle nous dit de prier, mais elle nous dit pourquoi prier. Vous avez par exemple, quand Paul parle, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment le message de l'Évangile. Vous avez là un bon sujet de prière pour les prédicateurs. Il y a les portes fermées pour lesquelles il faut prier. Et il y a les portes ouvertes, que beaucoup puissent rentrer par ces portes. C'est etc., etc. C'est les sujets de prière ne manquent pas. Mais il faut de vrais hommes et femmes de prière. Des gens qui prient vraiment. Pas simplement qui récitent des paroles pieuses comme cela dans leur petit coin. Il faut autre chose. Il y a un combat, il y a une lutte. La prière, c'est un champ de bataille. Ce n'est pas simplement une petite vie tranquille. C'est vraiment un engagement complet, total. Vous pouvez prier, comme il est dit, prier sans cesse. Vous pouvez prier partout, partout, constamment. Et quand vous commencez à prendre l'habitude de prier, eh bien, vous ne pensez même plus. Vous vous réveillez la nuit, vous priez, hein. C'est de plein pied. Vous êtes engagé dans le combat de la prière. Vous vous réveillez la nuit, vous priez. Vous êtes en train de travailler, hein, vous êtes votre ordinateur. Mon Seigneur, sauve les âmes, bénis ton Église, affermis les frères et sœurs. S'il y a quelqu'un qui est en danger, en tentation, veille sur lui et protège-le et donne-lui la force de résister à la tentation. Vous êtes arrêté parfois dans votre travail et vous priez pour l'Église, les frères et les sœurs qui sont au feu. Il y en a qui sont au travail et ils sont confrontés à la tentation. Et il faut prier pour eux, il faut intercéder pour eux. C'est pas seulement dans notre petite heure de prière du lundi, et quand je dis heure, c'est même pas une heure, hein. Ce n'est pas seulement là que l'on prie, c'est à chaque instant. Parce qu'il y a des besoins, il y a des besoins énormes, immenses. Et ça, c'est le rôle du chrétien, de chaque chrétien. C'est la responsabilité de chaque chrétien. C'est d'être un intercesseur, quelqu'un qui se tient à la brèche. Savez-vous ce que c'est qu'une brèche? Savez pas. C'est quand vous avez une forteresse, c'est une muraille continue. Et normalement, il n'y a pas de brèche dans une muraille. Mais quand il y a une brèche, c'est-à-dire que la muraille, d'une manière ou d'une autre, elle s'est effondrée. Et c'est un passage plus facile pour l'ennemi, pour pénétrer dans la forteresse. Alors, quand il y a une brèche dans une ville, hein, on ne met pas les faibles, on met les vaillants. Il y a des personnes qui se tiennent sur la muraille et qui se cachent derrière les créneaux et oh là, mais les flèches, elles tombent, hein, un peu trop dru, je me cache, j'attends que ça soit fini. Qu'ils aient épuisé leurs flèches, alors là, je pourrais m'aventurer. Mais dans la brèche, l'ennemi arrive, et il arrive en masse, parce que c'est une entrée plus facile dans la forteresse. Alors, les hommes forts se tiennent à la brèche, et ils luttent. Et ce sont des personnes qui disent, tant pis, si je dois mourir, je ferai tout pour que la ville soit sauvée, qu'elle ne soit pas prise. C'est la brèche. Et il y a des chrétiens qui se tiennent à la brèche. Parce que dans la forteresse, il y a des endroits où les choses se sont effondrées. Et il faut lutter là, jusqu'au moment où l'ennemi recule et où il est vaincu. Et parfois, ben, on peut fermer la brèche. Parce que l'ennemi a reculé, il nous laisse l'occasion de rebâtir. Mais nous avons d'énormes sujets de prière. Nous avons une immensité devant nous. C'est humainement, nous n'avons pas la force et nous n'avons pas les moyens de subvenir aux immenses besoins qu'il y a dans ce monde. Le monde est perdu. Les âmes ne se sauveront pas toutes seules, hein. Les gens ne vont pas venir à l'évangile. Oh, bien sûr, il y a une personne de temps en temps qui ouvre la Bible et dit, ah oui, mais c'est comme ça qu'on est sauvé. Ah oui, je comprends. Ce sont des exceptions. La plupart des gens, eh bien, sont sauvés parce qu'une personne va et leur parle. Et pour que l'âme puisse être sauvée, il faut qu'il y ait eu l'intercession, qu'il y ait eu un combat et qu'il y ait eu une victoire. Parce que l'ennemi aveugle les âmes, les empêche de croire à l'évangile, ferme la porte. Il faut que le Saint-Esprit ait la liberté d'agir dans les cœurs. Et il faut prier. Et il faut lutter dans la prière pour qu'il y ait une victoire gagnée, gagnée dans ce monde, gagnée dans les âmes, et qu'il y ait vraiment quelque chose qui change, qui soit changé. C'est, il y a des hommes et des femmes qui ont changé l'histoire du monde. Et je peux vous dire, par la grâce de Dieu, vous pouvez être ces hommes et ces femmes. Parce que je suis persuadé que le chrétien qui prie, eh bien, il obtient la victoire. C'est ça, c'est la. Dieu a fait des promesses dans sa parole, il a dit. Alors, il n'y a aucune raison que les choses ne se fassent pas comme il l'a dit. Il faut, c'est ce que l'on verra plus tard, il faut la foi. Donc, nous allons terminer là.
Amen.